Le journal des auditeurs avec Stéphanie Hartmann sur Africa numéro 1. Africa.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre émission, le journal des auditeurs, votre espace de commentaires, de débats et d'analyses autour des sujets qui font l'actualité aujourd'hui. Dans le JDA, nous attendons vos réactions à la situation sécuritaire au Mali. 10 soldats tchadiens de la force onusienne ont été tués dimanche à Aguelok. Cette attaque a été revendiquée par ACMI, Al-Qaïda au Maghreb islamique. La MINUSMA demeure ainsi la mission la plus dangereuse pour les casques bleus, car depuis son déploiement en avril 2013, au moins 173 casques bleus ont perdu la vie. Alors cette attaque jette-t-elle un doute sur l'efficacité de la MINUSMA ? Quel bilan peut-on faire de la mission onusienne depuis son déploiement il y a 5 ans ? Nous en parlerons avec notre confrère Tiembel Gimbayara, directeur du journal La Voix du Mali. Pour participer à cette émission, posez vos questions à notre invité. Appelez-nous dès maintenant au 01 55 07 58 00 depuis la France et depuis partout ailleurs dans le monde. Composez le 00 33 1 55 07 58 00 pour intervenir. Mais d'abord, un tour du côté du répondeur pour écouter vos messages.
Le JDA, c'est sur Africa numéro 1.
Oui, bonjour Stéphanie. Je réagis à la situation en RDC en disant que la communauté internationale, plus précisément l'Union africaine, a failli à sa mission de prévenir le conflit. Premièrement, elle aurait pu agir avant en obligeant Kabila de partir à la fin de son mandat. Deux, elle aurait pu mettre en place un administrateur pour organiser les élections avec l'assistance des casques bleus pour sécuriser la campagne dans certaines régions. C'est-à-dire qu'il fallait redéfinir la mission de la MONUSCO. À ce sujet, j'ai entendu un jour le secrétaire des Nations Unies, M. Antonio Guterres, dire « Pourquoi voulez-vous que les casques bleus, c'est-à-dire les Sri Lankais et les Indiens, aillent se faire tuer à la place des Congolais ?» Je suis étonné du réveil de la communauté internationale pour apporter des solutions maintenant, alors que la volonté d'aider la RDC n'a jamais existé. Bonne journée à vous et bonjour à tous les auditeurs.
Oui, moi je voulais intervenir sur le truc de la RDC. Je ne sais pas où sont les Congolais, qu'est-ce qu'ils veulent exactement. Mais voilà, les élections, ils voulaient que Kabila parte, Kabila il est parti. Ils se sont tous focalisés juste vers la présidence, une seule chaise. Ils ne pensaient pas aux élections législatives. Tout pensait que voilà, la fin du monde, c'était le départ de Kabila. Kabila, il est parti. Maintenant, il faut qu'ils attendent 5 ans pour passer aux élections législatives. Voilà, pas ça, qu'ils arrêtent de... Voilà. Johnny Makoso, merci.
Oui, bonjour monsieur, c'était pour répondre à propos de la politique de la RDC, ce monsieur Nyamukwabiza. Voilà, j'ai attendu nos confrères africains qui parlaient tantôt ceci, cela et tout, mais mon intervention est telle que l'arrivée de Tshisekedi, ça va, qu'on le laisse travailler. Mais il y a une bévure au sens du mot. S'il veut avoir la confiance de la totalité de tout Congolais et même la diaspora, qu'il écarte dans ses rouages Kamere. Parce que Kamere, au départ, vous savez qui il est, il n'est même pas Congolais. Hein? Et c'est vrai que Tshisekedi est plausible, il est crédible. Alors, c'est une occasion que vous fassiez travailler un fils du pays plutôt que de travailler avec les étrangers. Sinon, il va perdre totalement la confiance et il n'ira pas à 4 pas. Ou à 4, il ne va pas avancer avec ce qu'il est en train de faire. Raison pour laquelle nous vous demandons de lui en parler. Merci beaucoup.
Prenez la parole dans le JDA sur Africa numéro 1.
Africa.
Merci à tous pour vos messages. Vous pouvez désormais intervenir en direct dans le journal des auditeurs en composant le 01 55 07 58 00. Aujourd'hui dans le JDA, la situation sécuritaire au Mali, l'attaque du camp de la MINUSMA à Aguelok interroge un peu plus sur l'efficacité de la lutte antiterroriste au Mali. Nous en parlons tout de suite avec Tiambel Guimbayara, directeur du journal La Voix du Mali. Tiambel Guimbayara, bonjour.
Bonjour, bonjour aux auditeurs, Stéphanie Hartmann.
Merci d'être avec nous, hein, Tiambel. Alors, l'attaque contre le camp de la MINUSMA a été revendiquée par le groupe terroriste Al-Qaïda au Maghreb islamique, selon le porte-parole du secrétaire général de l'ONU. Le bilan est de 10 morts et plus d'une vingtaine de blessés. ACMI, mon cher Tiambel, affirme avoir mené cette attaque en réaction à la visite, le 20 janvier dernier, du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou au Tchad. Le Tchad qui a renoué ses relations diplomatiques avec Israël. Que pensez-vous, cher Tiambel, de cette revendication ?
Permettez-moi d'abord de m'incliner devant la mémoire de ces soldats qui sont tombés en défendant le territoire malien et d'un grand comédien malien aussi qui est tombé, Michel Sangaré, le 21. Il faut redire que c'est une revendication qui vient tomber quand même comme un cheveu dans la soupe. Parce que l'intervention de l'armée tchadienne aux côtés du peuple tchadien, je veux même dire, aux côtés du peuple malien, ne date pas de cette visite-là. Elle remonte en janvier 2013. Et il faut signaler que l'armée tchadienne a payé le prix fort de la libération de ces montagnes et de débusquer les terroristes de ces montagnes au cours de l'opération Serval. Dans cette opération multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation du Mali, le Tchad occupe le leadership avec M. Anadif et le Tchad encore est monté au créneau pour réoccuper la même zone qu'elle a aidé à libérer avec l'armée française et les forces armées de sécurité maliennes. Et ressortir aujourd'hui un renouveau ou une alliance ou le réchauffement des relations entre Israël et le Tchad pour expliquer cela, ça me dit un peu que c'est une aventure. C'est une aventure parce qu'Israël quand même revient sur le continent depuis un moment. On a rompu avec Israël, les États africains, pour la plupart, ont rompu avec Israël par rapport à la guerre, à la guerre avec la Palestine. Et si les États arabes ne sont pas solidaires ou ne suivent pas en tant que tels et que la communauté internationale ne trouve pas une solution à ce conflit-là, l'Afrique ne peut pas demeurer en marge de cela et continuer à couper ses relations avec Israël. C'est difficilement défendable de mon point de vue.
On verra peut-être les raisons aussi qui ont sous-tendu peut-être cette attaque et les proximités avec d'autres groupes terroristes. Merci Tiambel de cette introduction. On va donner la parole aux auditeurs. On commence avec Monsieur Dembélé. Bonjour.
Oui, bonjour chers auditeurs et auditrices et bonjour Madame Rettoman. Bon, donc merci. Je vous remercie de me passer la parole. Je vais poser la question à M. Sournal et à Guimbara. À propos de la sécurisation du Mali, moi, je ne parlais pas à l'ordre du jour, excuse-moi, mais moi, je parlais d'abord ce qu'il y a au Mali. Parce que depuis plus de 60 ans, moi, je ne vois pas que s'il y a une éducation qui permet de scolariser au Mali. Il n'y en a pas. Il est journaliste. Il sait très bien. On va à Bamako aujourd'hui. Tous les carrés de Bamako, il y a des écoles privées. Mali, c'est un pays pauvre. Il se le voit dans une liste, il y a 177 pays pauvres du monde. Mali s'est classé 174e. Comment voulez-vous que ce pays-là ne dispose pas la garantie d'éducation des enfants maliens? Pourtant, dans les constitutions, il se trouvait aussi, article 18, l'éducation est obligatoire et gratuite au Mali. Ces articles-là violés par les politiciens maliens.
Depuis 60 ans. Ce qu'on entend, M. Dembélé, dans votre propos, je vais juste compléter, M. Dembélé, pour peut-être marquer une petite virgule. Vous dites finalement, si on avait investi dans l'éducation, on ne se serait pas là en termes de sécurité, on n'aurait pas ces problèmes de sécurité. C'est bien ça?
Merci, madame. Excuse-moi, parce qu'on a du mal à parler. On a du mal à s'exprimer en français.
On vous a compris.
Voilà. Bon, donc, si on y a l'éducation, bien sûr, le Malien est en train d'arrêter la France et la Française. Le père de l'indépendance du Mali, c'est Modibo Keïta. Modibo Keïta, il n'a jamais d'accord avec les Français, mais Modibo Keïta a dit, quand on est indépendant, il faut l'éducation, il faut travailler. On a renversé Il n'y a pas d'éducation sourde aujourd'hui, il n'y a pas d'éducation. Depuis la révolution 68, à ces jours, il n'y a pas d'éducation au Mali.
Mmh. On va demander.
Voilà. Mmh. Bon, donc, en plus, il y a des corruptions réglementées, autorisées au sein des démonstrations. Mmh. Tout le monde le savait très bien. Il n'y a aucun homme politique du Mali qui n'épargne des populations est faible. Il n'a aucune capacité de concerter. Comment voulez-vous qu'au Mali, on peut développer le problème de Kidal depuis Tande Moussa jusqu'à Alpha, jusqu'à ATT? Il dit qu'on a signé un accord. Comment ils vont signer un accord? S'il y a le nord du Mali, s'ils sont révoltés, ils vont intégrer dans les démonstrations. Ils vont donner l'ensemble. C'est ce système-là qu'on le voit qu'il négocie toujours au problème du nord du Mali.
On comprend bien, Monsieur Dembélé, vous pointez deux choses plutôt intéressantes hein, dans les problèmes du Mali, c'est-à-dire que la corruption et l'absence d'éducation. On va demander dans quelques instants une réponse à Tiambel, parce qu'effectivement, de plus en plus de voix s'élèvent au Mali et ailleurs hein, pour souligner finalement les limites hein, de la réponse sécuritaire au Mali. On a parlé de la MINUSMA hein, durement touchée, mais il y a aussi Barkhane hein, qui est l'opération française qui est déployée dans le Sahel. On verra si finalement faut pas apporter d'autres réponses hein, que sécuritaires à cette crise au Mali, notamment des réponses dans l'éducation et dans la lutte contre la corruption. Je vous remercie beaucoup Monsieur Dembélé d'avoir ouvert cette émission. C'était votre première intervention, j'espère que vous rappellerez plus souvent. On va, avant de retrouver notre invité Tiambel Guibaya, on va écoutez, Magassa, bonjour.
Bonjour, moi je vous appelle pour la sécurité du Mali. Il n'y en a pas nulle part.
Vous avez entendu, monsieur Dembélé? Vous avez écouté, monsieur Magassa, vous avez entendu, monsieur Dembélé?
Oui, oui, lui, il parlait de l'éducation.
D'éducation et de la corruption. Et finalement, voilà, c'était aussi ces deux points qui faisaient que l'insécurité grandissait.
Non, c'est pas vrai. En sécurité, combien de militaires étrangers qui sont au Mali maintenant? Presque 100 000 militaires qui sont dans le nord.
Alors en tout cas, la MINUSMA, elle compte 13 289 soldats.
Vous vous rendez compte, tout ça, ils mangent au Mali, fait tout. Alors que les dépenses qu'ils font dans une seule journée, ça fait godronner 50 km de route au Mali pour sortir notre pays de la pauvreté. Les gaspillages qu'on fait avec tous ces militaires qui nourrit, logés, qui ne font rien de tout, ils voient qu'ils étaient. Après, les bandits viennent, ils tirent sur eux, ils s'en vont comme si rien n'était. Bon, dans nos régions, moi je suis région de Kaï, mon village, 10 000 habitants, il n'y en a pas un seul policier qui peut sécuriser le village. Si nous, on a cette une arme simplexe qu'on appelle une arme de un coup ici, on ne peut pas l'amener. Quand on amène là-bas, il dit l'État il récupère l'arme, il dit on n'a pas le droit d'avoir l'arme. Oui.
Vous dites, Magassa, finalement, dans la région de Kaï, vous dites qu'il n'y a pas de policiers, et quand on veut se défendre soi-même en prenant des armes nous-mêmes, ce que vous voulez dire, l'État ne veut pas.
Il nous confisque nos armes. Ma région, c'est Djema. Djema, il y a presque 200 000 habitants en région de Djema. Il n'y en a pas un seul village qui a un policier, ni gendarmerie. On est là, n'importe qui peut venir nous attaquer par sans problème.
C'est-à-dire, comment expliquez-vous que l'État ne soit pas déployé dans cette région, en tout cas que les forces de sécurité ne soient pas déployées dans cette région, même pas un commissariat, par exemple, quelque chose comme une gendarmerie?
Ah non, demandez Tiambel.
On va lui demander, il connaît bien, j'imagine, cette région-là.
Vous pouvez lui demander dans notre région de Karta. Et pour... Il y a un village qui a un gendarme où il y a un policier. Il n'a qu'à me citer cet village-là.
Magassa, c'est quoi pour vous les raisons de cette absence de policiers dans ce cercle de Yéna, hein, je crois
Djema,
pardon. Comment expliquez-vous cette absence de policiers? C'est quoi? Parce que le Mali est un pays pauvre, manque de moyens, manque de volonté politique?
Non, mais ça c'est l'État qui doit avoir tout ça. Nous, on est la population, on paie les impôts, on paie tout. Et on est une des régions plus patriotes que Mali, plus que Soninké Timur. Il n'y en a pas un patriote qui aime le Mali plus que Soninké. On fait tout pour développer notre région. Mais notre région, on a insécurité totale. N'importe qui peut partir de Kidal, venir nous massacrer, retourner, c'est lui, parce qu'il n'y en a pas...
Il y a beaucoup d'attaques dans cette région-là? D'attaques de brigands, j'imagine?
Il n'y en a pas, mais ça peut arriver.
Mais il n'y en a pas.
Si, c'est qu'on a pas d'armes dans nos villages. Nous, on a en sécurité totale.
On a compris, monsieur Magassa.
L'État nous confisque.
C'est ce que vous... Oui, on a compris, monsieur Magassa, qui dit que finalement, voilà, il y a pas de sécurité. Et surtout, vous avez dit, on peut pas se protéger nous-mêmes. Vous venez de le redire. Merci, monsieur Magassa. Tiens, Belgimbayara, je reviens vers vous pour un regard sur ces deux interventions d'auditeurs très différentes, finalement. On peut peut-être que commencer sur la situation dans la région de Caille, dénoncée par monsieur Magassa, qui dit, il y a pas du tout de sécurité, il y a pas de policiers. Qu'en pensez-vous? Vous qui connaissez bien cette région.
Oui, par rapport à la question sécuritaire de la région de Caille, c'est vrai que c'est une zone sahélienne où la répartition géographique, les localités, la situation géographique même de la région fait qu'on a un entonnoir vers le nord. Oui. C'est-à-dire que de cette forêt du Ouagadou, en passant par l'Iré, on peut rejoindre le Grand Nord sans passer par... sans passer par Bamako ou sans venir plus au sud. Et la frontière de la Mauritanie, aidant avec le cercle de Nara, le cercle de Nioro et autres, une longue frontière où elle est poreuse également, donc ça pose des problèmes d'insécurité. Mais le Mali est un pays vaste, certes, mais je crois qu'il y a des efforts à faire à ce niveau-là. Le gouvernement de la République du Mali doit revoir cette cartographie. Nous avons un camp, certes, à Nara, un camp à Nioro, et nous avons un poste de gendarmerie dans ces zones-là, mais l'entonnoir doit être coupé à un moment donné, exactement comme il le signale à Djema, dans le cercle de Djema, notamment au Karta, il y a un poste de police qui était prévu à ce niveau-là. Un commissariat devrait être créé à ce niveau pour couper en deux cette... et compléter en même temps le quadrillage sécuritaire de la zone. Mais c'est des efforts à faire, et je crois que les populations l'ont réclamé il y a longtemps, et ça, l'État doit être plus attentif à cela pour régler ce problème-là. De toutes les façons, nous assistons dans le Grand Sahel en général, nous assistons à ce brigandage-là, on vient même d'arrêter à Dili, à 395 km de Bamako, dans la région, la future région de Nara, le sac de Dili. Donc on vient d'arrêter un bandit de grand chemin qui a volé dans ses environs et aux environs de Nioro plus d'une quinzaine de voitures et le réseau est en train d'être démantelé. Nous assistons également à cela, c'est du brigandage, du banditisme de grand chemin qui devient un terreau qui s'applique à cette zone-là, qui profite de cette situation sécuritaire-là pour terroriser les populations. De mon point de vue, on doit être plus regardant par rapport à ça et le gouvernement doit être attentif à cela et écouter ce son de cloche quand même qui se fait retentir depuis un moment.
Et ce que disait M. Dembélé, je vais faire le lien aussi avec ce que disait M. Dembélé, parce que le premier auditeur, hein, puisqu'il y a Cercelli qui veut nous en parler aussi. L'autre aspect, monsieur Dembélé soulignait peut-être le manque d'éducation, la corruption qui aussi gangrénait la sécurité au Mali, pénalisait la sécurité. Est-ce qu'il y a des réponses sociales? On parle de la corruption, par exemple, parce que Cercelli veut revenir dessus. Est-ce que finalement la corruption empêche aussi les forces de l'ordre de faire correctement leur travail? Ou est-ce qu'on a des forces de sécurité qui sont parfois corrompues, Tiambel, au Mali?
La corruption gangrène tout développement, empêche tout développement. La corruption doit être combattue. Il n'y a pas d'autre remède. Qu'elle s'installe dans quelques secteurs de l'État, que ce soit, ça doit être combattu. C'est un phénomène qui est transversal, qui n'est pas commun qu'au Mali, mais le Mali doit prendre sa part de responsabilité là-dedans. Le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, avait placé son premier mandat sous ce signe-là. Et du point de vue institutionnel, il y a un département qui est dégagé pour la pérennisation, le contrôle de la vie administrative, la déclaration des biens. Ça part de là. C'est des actions timides, petit à petit, mais la population malienne, la société malienne, l'homme malien doit se saisir de cette corruption. Il n'y a pas de corrompu sans corrupteur. On doit se saisir de ces questions-là, en faire un débat, discuter de cette problématique-là et voir annuler complètement du moins abaisser quand même l'effet de la corruption au sein de l'État malien, parce que cette corruption, avec la corruption, on ne peut développer nulle part. Et l'école est la base. Si on n'a pas d'hommes formés, d'hommes instruits, on ne peut pas prétendre à une société incorruptible, on ne peut pas prétendre à une société aisée qui réclame ses droits, ses devoirs, qui se bat surtout dans un contexte, dans un monde globalisé, entaché de lutte contre le terrorisme, entaché de grand banditisme, et dans un Sahel où la pluviométrie recule, où les difficultés vont...
Touché par le réchauffement climatique aussi. Donc vous êtes d'accord, hein, Tiambel, finalement, quand M. Dembélé dit qu'on doit apporter d'autres réponses que des réponses sécuritaires, il doit y avoir aussi des réponses socio-économiques à cette insécurité?
Je crois qu'une fois que les accords ont été signés, les accords de paix ont été signés avec les groupes armés, on a du mal à désarmer ces groupes-là. Il faut que ce processus se prenne une allure normale, qu'on désarme tous les groupes armés qui sont signataires de l'accord. Ensuite, maintenant, on saura comment faire face à ceux qui refusent tout accord, qui ne brandissent que les armes pour faire appliquer leur politique. C'est les terroristes et c'est les bandits de grand chemin. En ce moment, tout le monde, on va faire face à ces bandits-là pour les combattre. Ils ne laissent aucune autre alternative à cela. Mais ces populations qui ont été intégrées, ces populations qui se sont trompées un moment, qui sont revenues en arrière, ces intégrés doivent vivre, doivent être insérés dans la vie économique, socio-économique, militaire et sécuritaire du pays pour reprendre du pouls. Donc il n'y a pas qu'une réponse sécuritaire pure et dure. Elle a montré ses limites. Il faut aussi tout un développement économique, socio-culturel. Il faut ramener la vie dans ces zones-là, sécuriser les populations, redonner confiance à ces habitants du Sahel pour qu'ils reprennent les activités pour le développement socio-économique du Mali.
C'est très clair. Merci beaucoup, Thiambel Gimbayara, un journaliste écrivait sur Bamada.net. Maintenant, l'insécurité va crescendo malgré la présence massive de toutes ces forces militaires. La désillusion a cédé la place à la colère. On retourne du côté du Standard. Vous êtes nombreux à vouloir intervenir. Olivier, bonjour.
Bonjour Stéphanie Ackman.
Bonjour Olivier, ça va très bien, merci de votre patience. Vous vouliez intervenir sur cette question sécuritaire au Mali, on vous écoute.
Ben non, moi je suis désolé, mais je vais intervenir sur la RDC.
Ah non, monsieur Olivier, c'est pour ça que je ne vous ai pas repris entre deux. Non, vous voyez, je vais vous expliquer le principe du JDA. On a un sujet par jour, du lundi au jeudi, et le vendredi c'est la libre antenne. Alors la RDC, malheureusement, on en a parlé hier plutôt, mais on aura peut-être l'occasion d'en reparler. Vous vous inscrivez pour la libre antenne de vendredi, mon cher Olivier?
D'accord, merci.
C'est noté. Merci à
merci.
Vous. Merci à vous. J'avais pas beaucoup le temps beaucoup d'échanger avec Olivier. C'est pour ça. Merci Olivier. Donc on continue de parler du Mali. Diaby attend depuis un bout de temps. Bonjour Diaby.
Bonjour Stéphanie.
Bonjour Diaby. Vous m'effirez quand vous laissez des messages sur le répondeur. Ils sont souvent saturés. On peut pas les diffuser.
Merci, c'est gentil. Je sais.
Je le dis d'ailleurs à l'ensemble des auditeurs.
Je comprends très bien. Mais je t'avais souhaité bonne année. J'étais le premier à te souhaiter bonne année. Mais j'irai souhaiter encore. Et puis donc voilà. Mais je vais dire une chose. Mais ce que je voulais dire, tu es Mali, de dire la vérité aux Maliens. Parce que c'est un journaliste qui ont l'opportunité de parler à la radio. Franchement, de nous dire la vérité. C'est eux qui ont poussé aux Maliens, qui ont expliqué aux Maliens les présidents. On ne sait même pas si on a un président. En 8 mois, ils sont là. Aucun Malien ne sait pas qu'est-ce qu'ils font. À Gao, le Premier ministre, il a été 2 jours après l'arrivée à Bamako, 2 jours, on a vu ce qui s'est passé à Gao. On n'a jamais vu plus de morts, on ne peut même pas compter les morts après le Premier ministre quand il a quitté au Gao.
Qu'est-ce qui s'est passé à Gao après le passage de Soumaïlou Boubaï Maïga?
Mais il savait ce qui s'est passé, les morts qu'il y a eu, mais on n'a jamais vu les carnages pareils.
Dites-nous, Diaby, expliquez-nous vous ce que vous savez.
Hein?
Qu'est-ce qui s'est passé à Gao après le passage?
Entre Dogon, on nous a vu qu'entre Dogon et les Pelles, on a vu ça entre le cadeau et le. Mais ce qui s'est passé, Stéphanie, je vous jure, Tchamali savent ce qui se passe. On ne sait pas les mismas, qu'est-ce qu'ils font cette région-là. On ne sait pas qu'est-ce qui fait Barkhane dans cette région. Parce qu'on n'a pas un président qui est lié, qui ne donne pas l'information aux Maliens. Aucun président ne donne l'information aux Maliens. On ne sait pas qu'est-ce qui se passe. En plus, deuxième chose, c'est qu'il vient de dire, les gars, pour dire qu'il n'y a pas de policiers dans les régions. Moi, c'est vrai, ce qu'il vient de dire, c'est réalité. Moi, je suis de communes, je suis de Caille, aux régions de Caille. Tous les villages de Soninké, il n'y a aucun policier. Il y a plus de 300, 400 villages, mais il n'y a aucun policier. Il n'y a aucun gendarme. Mais il y a sécurité totale. Mais ça, c'est ce qu'il vient de dire. Mais on a trouvé un président de la République qui est là. Ça fait 5 ans maintenant, il est là. On ne sait pas qu'est-ce qu'il fait. Aucun Malien aujourd'hui. Les sécurités, ce n'est même pas Gao, Tombouctou. Aujourd'hui, les sécurités, l'insécurité, ça se trouve à Bamako même. Ce n'est même pas, on va même pas chercher loin. C'est à Bamako même.
Vous dites finalement, le gouvernement ne communique pas assez. On ne sait pas trop ce qui se passe. On entend beaucoup de choses. On demandera à Thiambel, qui a été interpellé, une réponse tout à l'heure. Merci beaucoup, Diaby. Justement, Serceli, bonjour.
Bonjour, madame Stéphanie.
Bonjour, Serceli. Je vous citais tout à l'heure. Je voyais patienter comme vous aviez. Un peu la même préoccupation que Monsieur Dembélé. Pour vous, y revenir sur la corruption qui joue sur la sécurité du pays.
Ça joue énormément. Meilleur vœu déjà.
Meilleur vœu vous aussi. Bonne année. Merci.
Bonne année. En fait, il y a un véritable problème au Mali. La corruption, c'est vraiment du bas jusqu'au haut. Monsieur Kamel, il sait très bien. Il y a un véritable problème. Franchement, c'est décevant. J'étais au Mali il n'y a pas si longtemps que ça. franchement, même pendant les élections, tout s'achète. Mais franchement, c'est horrible. C'est ce qui se passe au Mali. Vraiment, il y a la corruption partout. Comment ça se fait-il que... En fait, il y a des gens qui prennent des armes, on les donne des millions, ils négocient, ils sont dans les grands hôtels. Comment ça peut s'arrêter à cette condition-là? Mais franchement, il faut que... j'ai longtemps guisé l'extérieur, mais franchement, il faut qu'à un moment donné, on prenne notre responsabilité. À un moment donné, on se pose des vraies questions. Quoi. Il y a la corruption partout. Si il y a un autre problème qui vient, le problème communautaire. Quand Ibeka est venu au pouvoir, c'était Kidal qui était occupé. Mais là, avec des amis qui vivent à Mopti, ils ont dit, depuis Ségou jusqu'à Kidal, l'État n'existe même pas. Quoi.
Et finalement, le Mali a perdu le Nord.
Voilà. Pas le Nord, mais il y a une partie du Sud aussi.
Parce qu'à la base, Ségou, oui, mais Ségou, centre.
C'est pas du centre.
Ouais, ouais.
Il y a un autre problème qui est venu à rajouter, problème communautaire. L'État, il fait rien, quoi. Vraiment, on voit rien. Si vraiment l'État, il veut faire quelque chose, dans quelle lutte contre la corruption, déjà, à Bamako. Parce que tous ces gens-là qui négocient, ils sont à Bamako. Mais c'est Campbell, il sait très bien aussi, je pense.
Merci, Cerceli, de votre intervention, Cerceli, qui revenait sur la situation de la corruption. Finalement, on entend dans vos commentaires, merci à vous, Cerceli, on entend dans vos commentaires une certaine dénonciation d'un aveuglement, peut-être, de l'État malien. On écoute Manjou Tiambel et je reviens vers vous, c'est promis. Bonjour, Manjou.
Oui, bonjour, madame.
Bonjour, monsieur Manjou. Vous pouvez couper votre radio au cas où elle serait allumée, s'il vous plaît. Haut-parleur.
C'est par rapport à... c'est le même, en fait, tout ce que vient de dire les autres.
Vous étiez d'accord, c'est ce que vous dire, Manjou. Vous étiez sur la question de la corruption, notamment, c'est ça.
C'est la corruption. En fait, ce qu'a dit Magassa par rapport à l'absence de l'État régalien, en fait, de la région des Caïques, que ce soit la justice, police, gendarmerie. Vous savez, les gens...
finalement, au-delà de la région de Caïques, l'absence de l'État, c'est un fait partout. Hein. On peut parler de ça aussi dans le centre.
Vous dites qu'il n'y avait pas d'attaque là-bas. Bien sûr qu'il y a des attaques, il y a des coupeurs de route. Pourtant, à l'époque d'ATT, ou je ne sais pas pour ATT, ou Moussa, ou quoi, comme vous voulez, il n'y avait pas ces genres d'attaque là-bas. Mais le problème est que là-bas, pour que ce soit la gendarmerie, le juge, pour qu'il soit nommé dans ces régions-là, ils se battent en fait. Parce qu'il faut un pot de vin. Et l'État, il le sait très bien. Donc vous pensez que quelqu'un qui se bat, qui met de l'argent sur la table pour être nommé dans une région, il va pour sécuriser? Non. Il va pour son intérêt. C'est déjà, ils sont là. Ils foutent rien.
En armée, Manjou, peu à peu, la réforme de la Constitution refait son apparition, notamment dans la bouche d'Ibrahim Boubacar Keïta. Est-ce que pour vous, ça peut résoudre le problème?
Ça va résoudre quoi?
Bon.
Ça fait combien de temps il nous sort les mêmes chansons? De toute façon, on ne sait même pas s'il est présent ou il est quoi. Je ne sais pas, il sert à quoi ce fichier-là. Et vous parlez de soldats tchadiens. Madame, excusez-moi, moi j'ai toujours dénoncé sur cette même radio. Les peuples tchadiens, ils meurent pour rien. C'est pas de mourir dans les andas du Foural. La France a des drones. Ils ont toutes les moyens, toutes les technologies pour repérer les terroristes. Pourquoi ils laissent les tchadiens aller au combat? Et la mort de ces tchadiens aussi, il faut le dire, c'est bien sûr, ça a un lien avec la visite de Netanyahu, avec Idriss Déby. Et vous savez très bien, Acme, c'est qui Acme?
Oui, c'est ce que disaient les djihadistes finalement, voilà, dans l'idéologie djihadiste, le conflit israélo-palestinien a son importance. Je vous interromps un peu, Manjou, parce qu'on arrive bientôt à la fin de cette émission. Il y a Monsieur Sissoko qu'on va écouter rapidement. Bonjour, Monsieur Sissoko.
Bonjour, madame.
Bonjour, monsieur.
C'est pour participer au débat.
Allez-y, monsieur Sissoko, vous avez quelques minutes.
Oui, moi, je veux que l'État fasse plus d'efforts, quoi. Je reconnais l'effort de l'État, mais il fasse plus, surtout de contrôle au niveau des postes de barrage de sécurité dans les environs. Parce que moi-même, j'ai vu certaines de nos gendarmes dormir sur les postes et que c'est les civils qui ouvrent les barrières, madame. Ouais. C'est pas bon.
Il y a un vrai problème. Hein. Merci, monsieur Sissoko. Il nous reste 2 minutes, hein, pour un peu moins d'ailleurs, pour donner la parole à Tiambel Gimbayara. Tiambel, hein, vous avez entendu, vous avez été fortement interpellé, hein, par Diaby qui dit vous savez ce qui se passe. Diaby faisait référence à la visite du Soumaïlou Boubaye Maïga à Gao, et je pense, hein, qu'il parlait par la suite, hein, des civils, hein, qui ont été tués dans l'attaque d'un village. Qu'est-ce que vous pouvez répondre à Diaby? Et par ailleurs, autour, peut-être une petite réponse aussi sur l'absence, hein, de l'État remarquée un peu partout sur le pays.
Oui, à ce point exactement, nous sommes tous témoins. Nous sommes tous témoins de la dégradation de la situation sécuritaire au centre. Mmh. Ça relève d'une géopolitique, d'une géostratégie qui déplace le problème du Nord et l'amène au centre et accable les populations, charge les populations. Il n'y a pas de problème communautaire au centre en tant que tel. Il y a un problème sécuritaire. Les populations ne peuvent pas laisser leurs biens pillés par des bandits de grand chemin, attaqués nuit et jour par des gens. Ce n'est pas possible. Le Mali aujourd'hui, la réalité est que nous sommes face à une situation difficile. Elle est délicate, elle est difficile. Avec toutes ces armées sur notre sol, on n'arrive pas à bouter le terrorisme hors de notre territoire. Et on doit se poser la question. Chaque Malien doit se poser la question. Du président au dernier Malien, on doit se poser la question.
Merci
malgré
beaucoup.
Malgré l'intervention et malgré tout cet engagement-là, on n'arrive pas à sortir de cette question-là. Et chacun... ce défi-là à relever.
Merci Tiambel Gimbayara. On aura l'occasion d'ailleurs, hein, d'en reparler sur notre antenne. On arrive à la fin de cette émission. Je vous souhaite une excellente après-midi à l'écoute d'Africa Numéro 1 et surtout, je vous dis à demain.